Bonjour à tous, c'est Boker Tov, et j'ai envie de te dire Shana Tova. Bah oui, Shana Tova, ça y est, on est rentré dans cette nouvelle année de Tavshin Pe Aleph. Opa, 5781, et on ne peut que souhaiter, et je vous donc souhaite, que ce soit une année extraordinaire, que ce soit une année pleine de brachot, que tous les problèmes qu'on a vécu en 5780, eh bien, disparaissent, et qu'on, pas qu'on retrouve ce qu'on avait avant, mais qu'on s'élève encore plus que ce qu'on avait avant, et que très 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 vite, eh bien, on puisse se retrouver en chair et en os pour continuer à approfondir, à étudier la Torah ensemble. Donc, Shana Tova à tout le monde, évidemment, et on souhaite retrouver les paroles du Khatam Sofer se réalisant, à savoir que cette année sera sous le signe de Me'ashpot, qui Me'ashpot Yarim Evion, et que donc Ashpot, c'est-à-dire Tavshin Pe Aleph, ce sont les initiales du, enfin à l'envers du mot Ashpot, et donc eh bien on va remonter et ça sera sympa. Mais non, je te fais pas la tête. Je te réponds après le cours. Tu sais quoi? Je te réponds après le cours. Je t'ai déjà envoyé le cours d'hier, donc c'est déjà pas mal. Donc, mardi matin, Boker Tov, et donc on a l'habitude le mardi d'étudier Pirkei Avot. Donc c'est parti, on revient dans notre étude de Maseret Avot, on est toujours au chapitre 1, Mishnah Yud Zayin. On est à l'avant-dernière Mishnah, donc du chapitre 1, et c'est parti. Shimon Beno Omer. Alors, Shimon Beno, c'est qui? Beno Shel Mi. Eh bien alors, on peut soit dire que c'est Shimon Beno Shel Rabban Gamliel, ce qui est assez logique, hein, Rabban Gamliel a parlé juste avant, et donc on dit Shimon Beno Omer. Jusque-là, ça passe. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, qui c'est celui qui parle juste après dans la Mishnah Yotret, quand on nous dit Rabban Shimon Ben Gamliel? C'est qui? Eh bien, c'est le même. C'est le même, seulement il n'était pas encore Rabban Shimon Ben Gamliel, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore nasi dans la Mishnah Yud-Zayin. Et il deviendra nasi dans la Mishnah Yud-Tret. C'est ce qui est le plus plausible. Même si on a vu certaines personnes expliquer que Shimon Beno, il s'agit non pas de ben, du fils de Rabban Gamliel, mais bel et bien du fils de Hillel. De Hillel Azaken. Hillel Azaken a eu un fils. Eh oui, il s'appelait Shimon Ben Hillel. Et donc, à ce moment-là, eh bien, ça nous permettrait d'avoir un enseignement, sinon on n'en a pas du tout, de Shimon Ben Hillel. Il semblerait quand même que, concrètement, il soit plus logique de dire que ce soit le fils de Rabban Gamliel. Donc, nous, c'est ce qu'on va adapter. Donc, Shimon Beno Omer. Kol Yamai Gadalti Ben Achachamim. Mazé, toute ma vie, j'ai vécu entre les rabbins. Mais Gadalti Ben Achachamim. Gadalti Etzel Achachamim. J'ai étudié chez les rabbins. Ça veut dire entre les rabbins. Eh bien, n'oublions pas que Shimon Ben Rabban Gamliel vit une époque terriblement tourmentée. Eh oui, car s'il s'agit de Shimon Beno Shel Hillel, ah, mais à l'époque de Rabban Gamliel et surtout de son fils, eh bien c'est à comment Betor Chasach. Alex, pas compris. Pas compris ce que tu as dit. Non, mais la période de Rabban Gamliel et de son fils est une période très très compliquée au sein de, enfin au niveau de l'étude de la Torah. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'époque où vont véritablement être. Alors non, justement, il n'a pas vécu au milieu des rabbins. On nous dit Ben Achachamim. C'est-à-dire que Yesh Chachamim Po, Yesh Chachamim Sham, Vani au milieu. Et donc, comme je disais, nous sommes dans une époque très tourmentée au niveau de la Torah, puisque c'est l'époque phare, l'époque si des machlokot entre ce qu'on appelle Bet Hillel et Bet Shammai. Et oui, et là, il va falloir rentrer dans le vif du sujet, il va falloir rentrer dans la profondeur de ce qui est en train de se passer là. Il se joue quelque chose de fondamental. Jusqu'à Hillel et Shammai, il n'y a pratiquement pas de machlokot dans le peuple juif. Pratiquement pas. Il y a eu une machloket, je l'ai déjà dit, à l'époque de Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan. Ça, c'était la première machloket qui n'a pas été tranchée. Machloket smicha beyom tov. Et ensuite, sous l'égide de Hillel et Shammai, se sont rajoutés trois, voire quatre machlokot. Mais c'est pas grand chose. T'imagines, cinq machlokot dans tout le peuple juif. Baktana. À partir de Beth Hillel et Beth Shammai, eh bien là, on va avoir des machlokot à profusion. On va avoir des machlokot pour tout. Et ça, ça commence à poser un vrai problème. Pourquoi est-ce que ça commence à poser un vrai problème? Eh bien, parce que la machloket, certes, si elle est l'échem shamaim, sofa leitkayem, tout ça, on a déjà étudié. Mais la machloket en soi montre que finalement, il n'y a pas d'harmonie dans ma relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une machloket? Pourquoi est-ce qu'avant, il n'y en avait pas? Là, avant, ça veut dire que tous les rabbins étaient d'accord. Mais c'est juste que lorsqu'on n'était pas d'accord, eh bien, on tranchait. Ça veut dire quoi, on tranchait? Eh bien, on fait un vote au Sanhédrin et la majorité, eh bien, elle l'emporte et c'est ça la halakha. Mais non, attention! Ça veut dire quoi, c'est ça la halakha? Ça veut dire que moi, j'étais dans la vie inverse. D'ailleurs, je donne un exemple. Je donne un exemple bateau. Moi, je pense que si je veux me faire un thé Shabbat, eh bien, je peux prendre de l'eau qui est sur le feu et le mettre dans une tasse avec le thé. Irui kli rishon, moutard. Bien non. Non, c'est pas le fondement même du judaïsme d'être en machloket. Absolument pas. Le fondement même du judaïsme, c'est de, finalement, de la ria dans la machloket. C'est de prendre une décision. Ce que je suis en train d'expliquer. Disons que moi, je suis en train de dire que pour faire du thé, je peux clérichon. Et ah, directement, c'est quoi du kunkum, je mets dans ma tasse, c'est bon. Et j'ai étudié la Torah, je pense que c'est comme ça. Et l'autre, il dit, non, moi pas du tout, je pense que c'est cliché. Et l'autre, il dit, non, moi je pense que c'est cliché. C'est pas ça, mon avis. C'est Bémet, il me rejoint, j'ai karaza alakha. Ou alors, je sais pas, moi, est-ce que c'est moutard de manger un aliment qui a été coloré en rouge grâce... Alex, je suis étonné. Je suis étonné de ta réaction, car il y a une question ici qui dit « Le deuxième jour de la création a été créée la machloket. C'était, elle est donc inhérente à la création. » Je ne comprends pas ce que tu dis. Si elle a été créée le deuxième jour, c'est qu'elle n'est pas inhérente à la création. C'est que justement, le premier jour, qui est l'idéal, on n'a pas fait de machloket. Donc après, il va falloir gérer le monde avec machloket, pas de problème, mais ce n'est pas l'idéal. Tout ça pour dire que, imaginons un exemple encore plus probant que mon clérichon, clichéni, clichéji. Est-ce que j'ai le droit de manger un aliment qui a été coloré en rouge par de la cochenille écrasée? C'est un colorant qui est très connu et très utilisé. Il y a des rabbins qui disent « moutard », il y a des rabbins qui disent « assour ». Regarde, c'est vraiment le cas. Il y a des rabbins qui disent « moutard », il y a des rabbins qui disent « assour ». Mais celui qui a dit « assour », il pense que ce n'est pas cachère. Mais si au final, le vote du Sanhédrin va en majorité pour celui qui a dit « moutard », eh bien, celui qui pense que c'est « assour », il devra quand même se plier à la loi du Sanhédrin. Et donc, c'est, ça lui coûte, parce que lui, il pense que Michal, c'est taref. Et l'homme échané. C'est-à-dire que c'est de cela qu'on parle. Et il ne s'agit pas de Yodim Shem Ta'ou. Il y a des gens, des fois, on sait que le Sanhédrin, il s'est planté. On a des arguments, on a des preuves que le Sanhédrin n'avait pas, et on sait qu'il s'est trompé. Moi, je parle pas de ça. Je parle qu'il y a eu deux avis différents. Il y en a un qui a été tranché, il y en a un qui est tranché. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, lorsqu'on a tranché et qu'on a des possèques la halakha, ben on a été possèques la halakha. Et donc, le fait d'après ne plus être entré en machloket permet d'avoir une harmonie dans ma relation avec Dieu par l'intermédiaire de ce que je fais au quotidien. En d'autres termes, lorsque il n'y a pas de machloket ouverte, mais que les différents litiges ont été tranchés, Eh bien, il y a une plénitude dans ma rencontre avec Dieu. Eh oui! Il y a, par exemple, dans la grande machloquette sur le lait chamour ou le lait pas chamour, le Rabbi Arayatz, le sixième Rabbi de Chabad, il dit que de manger du lait pas chamour, ça amène des sfekot dans la Emouna, des doutes dans la Emouna. En fait, il n'a pas inventé ça. D'après la Torah Kabbalah, quand tu manges un aliment pas cachère, ça amène des sfekot dans la Emouna. Et donc, la question pour le lait chamour ou pas chamour est de savoir, mais est-ce qu'il s'agit d'un aliment pas cachère ou cachère? Si c'est un aliment pas cachère, ça amène des sfekot dans la Emouna. Si c'est un aliment qui a été tranché halakhiquement parlant comme étant cachère, ça amène pas de sfekot dans la Emouna. Donc, si vous voulez, la prise de décision qu'il faut trancher la halakha, c'est fondamental. Alors aujourd'hui, on a réglé le problème en micro et pas en macro. Comment on a réglé le problème en micro? Ben c'est pas chouette. En micro, on a le rabbin de la communauté. Le rabbin de la communauté, c'est lui qui tranche la halakha pour sa communauté. Voilà, il n'y a plus de débat. Il y a une question qui s'est levée, boum, le rabbin il est venu et il a tranché la halakha. Mais Trian, donc au niveau de la communauté, on a réglé le problème. Mais malheureusement, on n'a pas réglé le problème au niveau du Klal Israël. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on a un vrai problème d'union au sein du peuple juif, pas seulement au niveau des idées, mais également au niveau de la marloquette. Difficile de comprendre ta conception, si tel était le cas, il est donc inutile d'étudier la Guémara, vaut mieux se focaliser sur le Shulchan Aruch. Mais pourquoi donc? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu dis ça comme si le Shulchan Aruch avait été la psikat halacha qui a été acceptée par tout le peuple juif, ce qui est complètement faux. C'est ce que voulait faire le Shulchan Aruch. Agave, pourquoi tu me dis le Shulchan Aruch? Le Rambam, avant le Shulchan Aruch, bien avant, le Rambam, il y a 900 ans, va écrire son Mishneh Torah. Et il écrit lui-même dans l'introduction de son Mishneh Torah. Pourquoi il écrit le livre? Comme ça, les gens, ils n'auront plus besoin d'aller regarder la Gemara. Il suffit qu'ils étudient son bouquin et ils savent exactement tout ce qu'il faut faire dans le judaïsme. C'était l'idée du Rambam. Pourquoi est-ce qu'il faut quand même continuer à étudier la Gemara? Eh bien, parce que on n'a pas accepté le livre du Rambam comme étant autorité pour tout le peuple juif. Et donc, d'où est-ce que tu vas tirer la compréhension de qu'est-ce qu'il faut faire et de la halakha? Eh bien, du Talmud. Dans la mesure où le Talmud est le dernier livre qui a été accepté comme autorité pour tout le peuple juif, eh bien, on va devoir étudier le Talmud pour voir si on est d'accord avec le Rambam, d'accord avec le Shulchan Aruch ou pas d'accord. Tu connais quelqu'un qui remet en question le Shulchan Aruch? Ben oui. Les Ashkénazes. Je sais pas si tu as entendu parler, hein. Ils sont pas nombreux, hein. Ils ne sont que 60% du judaïsme. Les Ashkénazim, mon ami, ne suivent pas le Shulchan Aruch. Peut-être que je te fais un ridouche, mais les Ashkénazim suivent le Réma, Rabbi Moshe Isserles, et ne suivent pas le Shulchan Aruch. Malasot. Maintenant, voilà. Donc, je vais aller plus loin. Chez les Sfaradim eux-mêmes, il y en a plein qui ne suivent pas le Shulchan Aruch. Par exemple, les Nord-Africains ne suivent pas du tout aveuglément le Shulchan Aruch. De la même façon, même le Rav Ovadia Yosef, qui dit que le Shulchan Aruch doit être le Maradat, Traderet Israël, et qu'il faut suivre le Horaot Maran, même lui, il y a plein d'endroits où il ne suit pas le Shulchan Aruch. Et chez les Ashkenazim, tout le monde ne suit pas le Réma. Il y a d'autres commentateurs et il y a d'autres poskim qui ont été suivis. Donc, Ein Malasot. Tout le monde ne suit pas le Shulchan Aruch. D'ailleurs, j'aimerais bien, toi, que tu me donnes un seul juif, un seul, que tu connais pas, l'homme chané, qui fait ce que le Shulchan Aruch il dit qu'il faut faire pour le Netilat Yadayim d'avant le pain. Parce que d'après le Shulchan Aruch, Netilat Yadayim d'avant de manger du pain, c'est tu te laves les mains, tu fais la bracha, tu te relaves les mains et ensuite tu manges. Il n'y a personne qui fait ça. Zéro juif fait ça. Donc tu vois bien que tout le monde n'a pas accepté le Shulchan Aruch à 100%. Bien sûr, il faut commencer, il faut l'étudier. Même les Ashkenazim étudient le Shulchan Aruch parce qu'il sert de base de compréhension qui est une base quand même sérieuse. Donc bien sûr qu'on va continuer à étudier le Shulchan Aruch, mais tu continues à étudier ça et ça et ça et ça. Pour au final essayer de comprendre et de te faire une idée. Le rabbin dans sa communauté, le POSEC dans sa communauté, il va se faire une idée et va être POSEC. Malheureusement, ça réglera le problème qu'au niveau micro dans sa communauté et pas au niveau du peuple juif. Il faut donc qu'on espère revenir à l'époque du Sanhédrin. Il faut reconstruire le Sanhédrin. Le Sanhédrin nous permettra de nouveau avoir un corps qui peut trancher pour tout le peuple juif. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de machlokot. Zéou. Et même si tu n'es pas d'accord, eh ben tu fais. Comme dans la communauté, même si tu n'es pas d'accord, eh bien tu fais ce que le rabbin il a été posek. En malasot. Ok ? On n'a pas le droit d'être en machloket avec le rabbin de la communauté sur la décision halakhique. Moi, je me souviens très, très, très fort, une année, je n'étais pas encore le rabbin de ma communauté, et le rabbin qui était le rabbin de la communauté de l'époque, arrive Yom HaAtzmaout, il a dit qu'il ne fallait pas dire le Hallel. Et je me rappelle que ça m'a énervé, moi j'étais jeune et tout, j'ai dit « Oh, bah putain, il faut dire le Hallel et tout !» Et j'ai fait un scandale dans la choule. Après la fête, j'ai été voir le Rav Cherki et je lui ai dit, je lui ai raconté l'histoire. J'ai dit, regardez comment je me suis bien battu pour le Hallel et tout, machin. Il m'a dit, Avarta Avera. Tu as transgressé la Torah. Comment ça? Il dit, bah oui, tu sais très bien que moi je pense qu'il faut dire le Hallel. Mais dans ta communauté, le rabbin, il pense qu'il ne faut pas dire. Et c'est lui le possèque dans ta communauté. Si tu veux dire le Hallel, tu n'as pas le droit d'aller prier dans un endroit où on ne dit pas. Donc, la dimension de Sanhédrin pour pouvoir unir la halakha, elle est fondamentale. Alors, quand est-ce qu'on va reconstruire le Sanhédrin, Rabotai? Le Rav Kook, lorsqu'il a construit la Rabbanout Arachit de Israël, l'objectif était bel et bien qu'un jour ou l'autre, ça devienne le Sanhédrin. Bon, le problème, c'est que ça a moyen marché. Et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Sanhédrin aujourd'hui? Eh bien, comment te dire? C'est un peu à cause de l'ego des rabbins. Le Rambam, dans les lois sur le Sanhédrin, nous dit qu'on peut refaire le Sanhédrin. A priori, il y a un problème. Le problème, il est que pour avoir le Sanhédrin, il nous faut 70 smuchin. C'est quoi smuchin? Ce sont des rabbins qui ont reçu la smicha, c'est-à-dire qui ont reçu leur ordonnance rabbinique de quelqu'un qui lui-même l'a reçu, de quelqu'un qui lui-même l'a reçu, qui l'a reçu de Moshe Rabbeinu, qui avait donné la formation à Yehoshua. Le problème, c'est que la smicha a été annulée durant l'Empire byzantin, et byzantin ne nous laissant plus le faire. Donc, on n'a plus de smicha. Seulement, le Rambam dans l'Ichot Sanhedrin nous dit qu'on peut l'échadesh et ta smicha. On peut remettre en place la smicha. Comment? Eh bien, dit le Rambam, il faut que tous les rabbins d'Eretz Israël s'unissent. Alors, c'est pas clair dans le Rambam. Est-ce que c'est tous les rabbins d'Eretz Israël ou du peuple d'Israël? L'Obaro, il faut qu'ils s'unissent et disent de l'un d'entre eux, c'est lui le patron. Et à ce moment-là, ça lui confère le statut de Samour. Et il peut lui-même donner la smicha à encore 69 autres, 70 autres. Comme ça, on a un Sanhedrin de 71. Et yallah, c'est parti. Donc, il faut simplement, pour qu'on refasse le Sanhedrin, que tous les rabbins aujourd'hui s'accordent pour dire que l'un d'entre eux, c'est lui le patron. Donc, autant dire que ça va arriver très bientôt, j'imagine. Et donc, nous dit Shimon Beno, « Kol yamai gadalti ben hachachamim, ben bet hilel, ou ben bet shamay. » Nous. Et donc, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il est le fils? Soit il est le fils de Hillel, soit il est l'arrière-petit-fils de Hillel. Donc, dans tous les cas, lui, il fait partie de l'équipe de Beth Hillel. Alors, pourquoi il a grandi Ben Beth Hillel ou Ben Beth Shammai? Eh bien, parce qu'il est évident qu'on doit aussi apprendre la vie de Beth Shammai. Barour, même s'il n'a pas été Nifsak la Halakha, on doit aussi apprendre la vie de l'autre. Parce qu'elle est aussi une façon de comprendre le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui va peut-être même mieux t'aider à comprendre comment toi, t'as été possèque. Donc, si tu veux, il est évident que je ne vais pas étudier que ceux qui sont d'accord avec moi. Il faut que je sache aussi ce que disent les autres, pour ne serait-ce que pour bien comprendre pourquoi je pense que moi, je pense. Donc, Shimon Beno, il étudie aussi les dvarim de Beth Shammai. Seulement, quand il est au stade de l'étude, alors il te dit, Kol yamai gadalti ben hachachamim, velo matzati la guf tov ella shtika. Il y a un moment donné dans l'étude, il faut savoir se taire. Lo miyad. Non, arrête. Calme-toi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans l'étude, il faut savoir qu'on est en train d'étudier. Donc quand tu es en train d'étudier, tu n'as pas ton mot à dire. Tu apprends, tu te tais. Nachon. Velo Midrash Ikar, elle a amassé. Eh oui. Parce que si tu vas étudier Gamze, Vegamze, 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 bah au final, tu ne sais plus quoi faire. Donc l'homme Midrash Ikar, pas le limoud est le plus important. Et la amassé, il faut savoir quoi faire au final. Dans la machloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai, au final, c'est nachon que Elou ve Elou divrei Elohim Chaim. C'est vrai que et eux, leurs paroles sont les paroles du Dieu vivant. Aval virgule, ve alacha ke Bet Hillel. Eh oui, ve alacha ke Bet Hillel, il ne faut pas l'oublier cette fin de phrase. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas toujours dire, surtout, vous savez, quand il y a des débats, quand il y a des disputes entre deux personnes, ils te disent, bon, Elou, Elou, Dibre, Elou, Ibrahim, ça va. Il y a 70 panim à la Torah, 70 facettes. Nachon, il n'y a qu'une seule halakha. C'est-à-dire que, Nachon, il faut apprendre à étudier. Alors, au final, il y a halakha. Et c'est pour ça qu'il termine en disant Vechol amarbe bidvarim mevichet. Vas-y, kol amarbe bidvarim. C'est très bien la rabote bidvarim. Ma baya. Marbe bidvarim, c'est-à-dire que quand il étudie, il dit comment il faut faire comme ça? Il dit oh, tishma, mitzad echad, oui, mitzad sheni, celui-là, un tel, il dit comme ça, et lui, il dit comme ça, et lui, il dit comme ça. Genre, tout le temps, tu amènes toutes les svarotes et tu n'es pas marchia. Et ça, c'est un vrai problème. Quand tu amènes tous les avis, mais que tu ne donnes pas, au final, tu ne tranches pas, à ta mevichet. Parce que le mec, au final, il va se faire son avis, et puis peut-être qu'il va prendre sur lui de décider l'avis qui a été rejeté par la halakha. Et donc, quand la marbe bitvarim, velo machria, et il n'est pas posek, ou mevichet. Tu te dois, quand on te demande la halakha, de dire, ok, il y a plusieurs avis, mais halakha le maase, par exemple, lorsque tous les jours, tous les matins, j'envoie les 4-3 minutes là de Halakha Yomit sur Ilkhot Shabbat, vous croyez vraiment que tout le monde est d'accord avec ce que je dis? Vous croyez vraiment que lorsque je dis ça c'est moutard, ça c'est tout le monde est d'accord? Bevadai shelo. Mais ça, c'est ce que moi, d'après tous les avis, je suis possèque pour ma communauté. Parmi tous les avis, il y a des avis qui interdisent ce que moi j'ai permis. Il y a des avis qui permettent ce que moi j'ai interdit. Mais pour ma communauté, voilà ce que je suis possèque. Ça veut dire qu'en général, j'amène plusieurs avis, mais je dis, mais au final, c'est moutav, faisait moumlat, faisait assour, faisait kacha. C'est-à-dire que tu ne peux pas te contenter d'être marbé bidvarim. Il faut également que tu sois possèque la halakha des dvarim. À bientôt les amis!